Décryptage. Véronique Rigolet.
Jusqu'où ira donc Elon Musk ? Il visait la planète rouge, le voilà installé à la Maison Blanche. Rien ne semble pouvoir arrêter Elon Musk dans sa quête de puissance. L'entrepreneur surdoué, controversé, mégalo, déjà patron de Tesla, SpaceX, Starlink et du réseau social X, va faire sa grande entrée sur la scène politique au plus près des leviers du pouvoir présidentiel. Récompensé pour son soutien sans faille à Donald Trump, voilà Elon Musk nommé conseiller spécial en charge de l'efficacité gouvernementale. Un cost killer dont les entreprises sont pourtant biberonnées aux subventions fédérales. Un mélange des genres vertigineux qui fait de lui le premier oligarque américain et sans doute l'homme le plus puissant du monde. Et on en parle ce soir avec Olivier Lascar, journaliste, rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir, auteur d'Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, paru aux éditions Alizio, et Boris Mananti, chef du service éco au Nouvel Obs, auteur d'Elon Musk, le bonimenteur, aux éditions du Rocher. Bonsoir à vous deux, bienvenue sur
bonsoir.
RFI.
Bonsoir.
Boris Mananti, un tel niveau de puissance pour un chef d'entreprise qui va accéder à la Maison Blanche, c'est complètement inédit dans l'histoire américaine.
Ah oui, c'est du jamais vu. Déjà pendant la campagne, voir un patron s'engager autant, aller autant à tous les meetings de Donald Trump, sauter sur scène à côté de lui, prononcer des grands discours, c'était assez inédit. Et alors là, le voir plonger dans ce mélange des genres et ce conflit d'intérêts, par définition même, de ce qu'est un conflit d'intérêts avec cette commission qui ne sera pas tout à fait un ministère en tant que tel, c'est assez... assez vertigineux, ouais. C'est un beau mot.
Ça fait de lui le premier oligarque américain.
On peut dire ça, oui.
On peut comparer
une telle puissance
avec les
dans ses entreprises, un tel lien avec l'État et aujourd'hui un tel lien avec la future administration. Oui, c'est un oligarque américain.
Olivier Lascar, cranter ainsi le pouvoir politique en plus de toute son activité industrielle, cette ambition d'Elon Musk, est-ce que vous l'avez vu venir ? Est-ce que, par exemple, le rachat de Twitter faisait déjà partie de ce plan de conquête du pouvoir?
Alors, je dois dire qu'effectivement, quand on m'avait interrogé sur le rachat de Twitter en 2022, il m'avait semblé à l'époque que c'était déjà un projet d'ordre politique. Mais là, il y a un malentendu qui peut s'installer. C'est-à-dire, quand on dit ça, ça veut dire qu'il veut devenir un politicien. Moi, je n'ai jamais eu l'impression qu'Elon Musk ait eu le désir de devenir un politicien. En revanche, il était arrivé dans un moment dans son activité industrielle où il avait besoin d'avoir des partenaires politiques extrêmement étroits. Il ne fallait pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre lui et l'homme ou la femme à la Maison-Blanche. Et donc, il s'est donné les moyens d'installer, en quelque sorte, à la Maison-Blanche, un partenaire qui lui permettrait d'accélérer ses activités industrielles. L'obsession d'Elon Musk, c'est la réussite de ses activités industrielles et, vous l'avez dit dans votre introduction, la planète rouge. Mars, par essence, c'est de la science-fiction, donc ça paraît un sujet éloigné, déplacé, presque hors sujet, mais je crois que c'est vraiment l'obsession d'Elon Musk et qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. Avec Trump, il aura quelqu'un qui va l'amener sur Mars. Mars sera pour Trump ce que la Lune sera pour Kennedy. Quoi.
C'est lui qui a installé Donald Trump, Boris Mananti ?
En tout cas, il y a fortement participé, contribué. C'est les électeurs en tout qu'on...
110 millions de dollars. Hein.
119 millions de dollars qui sont allés dans la campagne. Et le rachat de Twitter, on est sur quelque chose autour de 43 milliards de dollars. Parce que oui, comme Olivier le disait, dès 2022, il y a vraiment un engagement pour cette campagne présidentielle américaine. On l'a vu glisser Elon Musk. Il tweet tellement que c'est très intéressant à observer. On l'a vu glisser à partir de 2019 et du confinement lié à la pandémie de Covid vers des idées de plus en plus conservatrices. Et il a pu dire à son biographe officiel, hein, Walter Isaacson, que le rachat de Twitter était animé après la transition de sa fille aînée, qu'il a très mal vécue, qu'il considère tuée par le virus woke, ce sont ses mots.
Ça a été le déclencheur.
Ça a été le déclencheur dans son intimité. Dans son intimité, pour dire il faut un contre-récit, il faut donner plus de poids aux idées conservatrices, plus d'écho. Et ça s'est traduit par son engagement dès 2022 derrière des candidats républicains en vue de l'élection présidentielle américaine.
Donc une campagne très construite à défaut de devenir président lui-même parce qu'il n'est pas né sur le sol américain. Mais en Afrique du Sud, il cherche désormais à peser de tout son poids sur les décisions politiques américaines, Olivier Lasker.
Oui, effectivement, lui-même ne peut pas être président, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit son désir. Je pense que son désir absolu, c'est que le projet... il faut voir d'où il vient culturellement. C'est un garçon qui est obsédé par la science-fiction, a un imaginaire qui est très commun à sa génération. C'est pour ça qu'il fonctionne bien, Elon Musk aussi. Il parle à sa génération, il a les mêmes codes. Il a des fusées qui ont les noms de celles de Star Wars. Il a des références au guide du voyageur galactique.
Starlink pour ses satellites.
Oui.
C'est tout un vocabulaire.
Quand il envoie une Tesla dans l'espace, c'est avec la musique de Bowie et de Starman. Donc, il a les mêmes codes que les gens auxquels il s'adresse. Tout ça pour que son projet... c'est quoi son projet ? Il considère... Il y a une phrase qu'on associe à ce qu'on appelle le cosmisme et qui vient plutôt des soviétiques, de la création de l'aventure spatiale soviétique. Cette phrase, c'est « La Terre, c'est le berceau de l'humanité, mais personne ne passe toute sa vie dans son berceau. » C'est la croyance selon laquelle... la destinée de l'espèce humaine serait d'aller ensemencer le reste du système solaire. Et la planète la plus proche de chez nous, c'est Mars. Donc, l'idée de Musk, c'est d'accomplir cette vision. Et il s'est donné tous les moyens. Alors, il s'est donné les moyens que vous disiez de financement extraordinaire. Il a mis des millions dans la campagne de Trump.
119, donc.
Oui, mais ce qui me paraît encore plus singulier, c'est la façon dont il a instrumentaliser Twitter et la façon dont il l'a transformé.
À coup de désinformation, de fake news.
Il en a fait une machine à deepfake, c'est-à-dire à contenu trafiqué par l'intelligence artificielle, des images photoréalistes mais fausses, des sons vraisemblables mais faux et des vidéos pipo.
Qui ont été reprises des millions de fois. Car il faut rappeler que Musk, c'est 200 millions de followers. Il n'y a rien qu'il mette en ligne sans que ça ait une répercussion au niveau des États-Unis, mais au niveau mondial également. C'est ça sa puissance de feu ?
Oui, parce que Twitter, c'est un réseau spécial particulier. Le monde entier n'est pas sur Twitter. Mais tout ce qui se passe sur Twitter est commenté dans le monde entier. Et c'est ça l'effet extraordinaire. Donc cet été, quand Musk diffuse un deepfake, un faux son de Kamala Harris, où c'est la voix de Kamala Harris, où elle glose sur la sénilité de Biden, où elle explique que en tant que femme de couleur, si on est contre elle, on est forcément sexiste et raciste, Musk diffuse ça en disant « Ah, c'est très comique, j'aime beaucoup ce passage », il ne dit pas que c'est un deepfake. Il le dit 48 heures plus tard. Ça veut dire que pendant deux jours, ce document, il se dissémine aux quatre coins de la planète à vitesse grand V. Et ça laisse quelque chose quoi, dans le cerveau, même si c'est faux.
Boris Mananti, c'est pour faire prospérer ses affaires qu'Elon Musk arrive aujourd'hui sur la scène politique. Au risque de conflits d'intérêts incroyable.
De toute son histoire et de toutes ses déclarations, il y a une seule constante, une seule colonne vertébrale pour Elon Musk, c'est qu'il n'agit que dans l'intérêt de ses entreprises et par extension son intérêt à lui, puisque sa fortune personnelle est adossée à ses entreprises. L'engagement derrière Donald Trump, cette négociation pour obtenir cette commission, parce que c'est lui qui la réclame à Donald Trump, c'est vraiment pour favoriser ses entreprises. Oui, on va basculer dans un conflit d'intérêts énorme. Il va avoir la main sur les agences fédérales américaines, agences qui, pour une vingtaine, ont lancé des enquêtes sur les entreprises d'Elon Musk, sur aussi bien la sécurité des véhicules Tesla que les dommages environnementaux des fusées SpaceX. On peut se douter qu'il va vouloir contrecarrer en tout cas ces enquêtes. Vous l'avez dit aussi, c'est un empire derrière Musk qui se gave de subventions publiques. Rien que l'an dernier, c'est 3 milliards de dollars que ces entreprises ont touché. Et enfin, la petite cerise sur le conflit d'intérêts, c'est que grâce à ce rôle, il pourrait aussi nuire à ses concurrents.
C'est ça l'idée, par exemple, à Boeing.
Un exemple qu'il a cité pendant la campagne, c'est qu'il a dit que la NASA n'a peut-être pas besoin d'une nouvelle capsule spatiale, capsule qui est fabriquée par Boeing, son principal concurrent dans le spatial. Donc là, c'est vraiment le conflit d'intérêts au milieu de la figure, quoi.
Il pourra aller jusque-là.
En tout cas, il va avoir les mains libres pour faire des propositions. Est-ce qu'elles seront suivies ? C'est difficile de savoir exactement comment tout ça va se concrétiser. Il a fait la promesse un peu en l'air de couper à peu près 30% des dépenses publiques. Là, pour l'instant, il liste des petites dépenses que lui-même qualifie de stupides, qui sont à chaque fois autour de quelques milliers, quelques dizaines de milliers de dollars. Il n'ira pas à 2000 milliards de dollars comme il l'a promis, Donc il va à un moment s'attaquer à des gros morceaux. Et si ces gros morceaux peuvent favoriser ses entreprises, tant mieux.
Alors plus largement, et vous en parliez sur sa mission, hein, désormais diminuer d'un tiers les dépenses fédérales, 2000 milliards de dollars d'économies à faire. Est-ce que c'est réaliste, Olivier Lasker ? En 18 mois, hein, parce qu'en plus, le temps est compté.
Non, ça ne me paraît pas réaliste. Je pense que... on est pris là dans un étau qui est un buzz entretenu par Trump et Musk. Cette affaire me paraît complètement abracadabrantesque, comme disait notre ancien président, parce que comment le conflit d'intérêts qui vient d'être expliqué par Boris, il est même plus manifeste. Enfin, il y a quand même quelque chose c'est impossible, quoi. C'est une situation impossible. Comment un homme qui reçoit 15 milliards de dollars en 10 ans pour SpaceX peut en même temps dire comment doivent être distribués les subsides des clients de SpaceX.
Être son propre régulateur, c'est tout le rêve d'Elon Musk.
Ça paraît complètement impossible. Il y a les enquêtes là, qui étaient dites aussi. La FDA mène des enquêtes sur la façon dont Neuralink a procédé à des tests sur les singes. La sécurité routière nationale enquête sur les accidents de Tesla. Donc, il y a quelque chose qui paraît complètement improbable. Alors, on nous explique que ça sera possible parce que ça n'est pas un ministère en tant que tel, mais une commission. Donc, il ne sera pas dans le gouvernement. Il n'est pas ministre. Hein. Bon, il n'y a pas de ministre aux États-Unis, mais enfin, il n'est pas l'équivalent. Il ne sera pas l'équivalent d'un ministre. Mais enfin, quand même, tout ça paraît bizarre. C'est d'autant plus bizarre que c'est une commission à deux têtes.
Avec un autre milliardaire.
Voilà, elle serait dirigée par Musk, qui est un ancien compétiteur de Trump pour le titre de candidat républicain à la Maison-Blanche. Dans toutes ses activités, il n'y a qu'une seule tête qui dépasse à Elon Musk. On ne peut pas croire qu'il va co-diriger une commission avec qui que ce soit. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression du 3 petits tours et puis s'en vont, quoi. Il est là pour alimenter un récit pendant quelques temps, peut-être jusqu'à l'accession opérationnelle de Trump à la Maison Blanche début 25, mais j'y crois pas.
Boris Mananti, quoi que fasse le nouveau co-killer en chef des États-Unis, la certitude, c'est que ça s'accompagnera d'une grande brutalité, à votre avis ?
Ça a été sa méthode dans ses entreprises et le cas de Twitter a été peut-être le plus marquant récemment. Quand il rachète l'entreprise, il licencie des milliers de personnes sur un simple email sans se préoccuper de ce qu'il faisait déjà, si ça pouvait être utile, mais aussi de la légalité puisqu'il n'a pas du tout respecté la loi dans un certain nombre de cas. Il y a beaucoup de procédures partout dans le monde qui sont en cours. Donc a priori, oui, il y aura beaucoup de brutalité dans la méthode. Après, faudra voir s'il pourra vraiment mettre en œuvre des choses. Cette commission, normalement, doit formuler des propositions qui seront approuvées ensuite par le Congrès, ou pas d'ailleurs. On verra la marge de manœuvre.
On voit mal le Congrès refuser la nomination d'Elon Musk.
Pour moi, pour rebondir sur ce que disait Olivier, surtout, c'est on verra combien de temps les deux égos durent.
Et la bromance risque d'être de courte durée, on y reviendra.
Entre Donald Trump et Elon Musk, oui, ça pose question, tellement les deux sont mégalos et dotés d'un hubris assez démesuré.
Alors, on s'inquiétait pour les Américains à cause de ce côté sombre d'Elon Musk, cette désinformation, son complotisme et le fait qu'il ait cette puissance de Twitter entre les mains. Quel impact sur la scène internationale? Est-ce que finalement, là aussi, il ne serait pas plus puissant que Donald Trump lui-même? 75% des satellites au-dessus de nos têtes appartiennent à Starlink. On sait le rôle qu'il joue en Ukraine. C'est lui qui fournit la couverture numérique des Ukrainiens. Elon Musk, contrairement à Trump, qui a promis d'arrêter la guerre en 24 heures, Musk pourrait le faire. S'il coupe son réseau, la ligne de front ukrainienne pourrait tomber. Est-ce que ça, c'est pas un vrai danger?
En tout cas, son rôle géopolitique à Elon Musk va vraiment poser question, puisque là, au premier coup de fil de Trump avec Zelensky, il est présent. Et on sait qu'il est en contact régulier avec Vladimir Poutine. Donc, il a des intérêts qui sont parfois divergents. Et je pense que le nœud du problème va se situer au moment des discussions à propos de la Chine. Donald Trump a été très clair, et est très clair depuis très longtemps, qu'il veut une politique économique très agressive, très offensive en direction de tout ce qui émane de Chine. Il y aura des répercussions côté chinois. Sauf que Tesla est très très lié à la Chine, plus de la moitié des Tesla sont fabriqués là-bas. Et les intérêts d'Elon Musk ne seront pas toujours alignés avec les intérêts des États-Unis. Et au moment où il y aura une vraie divergence, qu'est-ce qui va advenir ?
Olivier Lascar, est-ce que la personnalité même de Musk peut poser un vrai problème? Son entourage le dit, consommateur de diverses drogues, lui-même reconnaît qu'il prend de la kétamine pour lutter contre la dépression. Qu'est-ce que ça dit du personnage et des dangers, peut-être, d'instabilité?
Ils sont grands, parce que Elon Musk, il n'est pas dans son rôle à l'heure actuelle. On peut discuter de sa qualité d'entrepreneur ou d'innovateur. Il a fait des choses déterminantes dans l'histoire récente des technologies. Le coût des fusées réutilisables, sans Elon Musk, ça ne serait pas arrivé. Et ça a changé complètement le visage de cette industrie. En revanche, il y a plusieurs Elon Musk, et le nouvel Elon Musk, celui de Twitter, celui de l'hubris, celui de cette croyance en une capacité extraordinaire qu'il aurait et dont il faudrait faire profiter la communauté mondiale, celui-là est déplacé, parce qu'on voit qu'il sort très régulièrement de sa zone de compétence, et c'est volontiers pour dire n'importe quoi. On l'a vu pendant la pandémie, on le voit quand il parle des questions de démographie. Donc aujourd'hui, quand il a fait déjà des plans, il a proposé des plans de paix entre l'Ukraine et la Russie, qui étaient absurdes et qui étaient dissymétriques, en tout cas pour le moins, c'est-à-dire complètement en défaveur de l'Ukraine.
Voire dangereux, il a même voulu organiser il y a 2 ans un référendum sur la guerre en Ukraine.
Oui.
Via Twitter.
Donc c'est il est dans un contre-rôle qui, à mon avis, va trouver ses limites assez rapidement, et en grande partie, je crois, pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire que cette association avec Trump, c'est la carpe et le lapin d'un certain point de vue, parce qu'ils sont pareils.
C'est un peu les deux lapins.
Oui, c'est plutôt les deux lapins.
Si vous me permettez.
C'est plutôt les deux lapins, parce que ils n'ont pas toujours été copains. Hein. C'est assez récent. Hein, Musk s'est amouraché de Trump après l'attentat, parce que Trump a réagi d'une façon qu'on a vue. Mais voilà, ça ne va pas durer.
Voilà, l'amitié, la bromance, Olivier Lascar, en quelques mots, c'est l'affaire de quelques mois, ça n'ira peut-être même pas jusqu'au bout de la mission de Coskiller, en 2 mots.
Oui, il y a des romances qui durent un été, là c'est la bromance qui durera peut-être 6 mois, effectivement.
Boris Mananti.
C'est la grande question, combien de temps ça durera? La commission est engagée effectivement jusqu'à la mi-2026. Faut jamais oublier qu'il y aura des élections de mi-mandat en 2026 et que Musk s'est engagé à continuer de financer les Républicains jusqu'en 2026.
Merci à vous, Olivier Lascar, journaliste, rédacteur en chef du numérique à Sciences et Avenir, auteur d'Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, aux éditions Alizio. Merci également à vous, Boris Mananti, chef du service éco au Nouvel Obs, auteur d'Elon Musk, le bonimenteur, aux éditions du Rocher.
Merci
à notre ami Sigrid Azeroual à la cellule invitée.